La matinale de 19h.
Et bah, c'est une émission qui parle de société,
de politique,
culture alternative.
On va aussi parler de sport, de gens dans la rue.
Et l'actualité en règle générale.
On va peut-être parler des corbeilles à linge en osier d'Auvergne.
Voilà, il y aura des invités.
Des sociologues, des invités chercheurs.
Les invités ne diront que des choses intelligentes.
Ça va peut-être s'étriper un peu de temps en temps, mais...
La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
Le 18 octobre dernier, un astéroïde avait été repéré en train de se balader dans l'espace et cela a été confirmé hier dans la revue britannique Nature. Et ça m'a fascinée de me dire qu'un gros machin de 400 mètres de long sur 40 mètres de large se trimballe au-dessus de nos têtes sans que ça ne change rien à notre train-train quotidien. Pourtant, la première question que l'on devrait se poser, c'est où va cette chose? Le ciel va-t-il nous tomber sur la tête? Il semblerait que non, même s'il est passé par notre système solaire, il va continuer son petit bout de chemin dans la galaxie à une vitesse de croisière d'environ 95 000 km par heure au calme. Mais ce qu'il y a de plus fou, tout du moins d'inédit, c'est que c'est la première fois que les astronomes parviennent à observer un astéroïde en provenance d'une étoile. Pour le docteur en physique théorique Christophe Galfard, interrogé par France Info, il s'agit d'une relique de la naissance d'un autre système solaire. Et puis cet astéroïde nommé C-2017-U1, ou alors Oumuamua pour les intimes, ne subit pas d'attraction gravitationnelle, on ne la reverra donc pas. Elle passera cependant faire un coucou à Jupiter en mai 2018, mais pas Jupiter Macron, hein, Jupiter la planète, avant de se balader pour aller faire un kiss à Saturne en janvier 2019. On ne saura peut-être donc jamais où elle va atterrir.
La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
Et où atterrir, c'est également une question que s'est posée notre première invitée qui signe un nouvel essai intitulé « Où atterrir, comment s'orienter en politique ?» qui aborde la question des frontières, des climato-sceptiques, des progressistes ou des réactionnaires. Où allons-nous? Où va le monde? Bruno Latour sera parmi nous pour répondre à toutes nos questions. On va aussi parler d'un prix unique en France et dans le monde, celui qui récompense les catalogues des expositions parisiennes. Vous savez, ces gros bouquins, ces beaux bouquins que vous pouvez acheter, même si c'est un peu cher, dans les boutiques des musées. Un des jurés de ce prix Catalpa et le chargé de fabrication du catalogue lauréat nous rejoindront pour la deuxième partie de cette émission. Côté chronique, Philippe nous parlera musique et comme chaque mardi, Jacques fait le tour des actus étudiantes pour vous, rien que pour vous. Alors restez avec nous sur Radio Campus Paris.
We want fair treatment for its citizens and we want fair treatment for our taxpayers. We don't want other leaders and other countries laughing at us anymore. And they won't be. They won't be. I was elected to represent the citizens of Pittsburgh, not Paris.
En titre de son dernier ouvrage, il se demande où atterrir et s'essaie en sous-titre de répondre à la question « Comment s'orienter en politique ?» en s'étant troublé, comme l'illustrait le discours de Trump que l'on vient d'entendre, qui précisait en juin dernier s'adresser aux citoyens de Pittsburgh et non pas de Paris, notre invité ne craint pas d'esquisser son impuissance en se demandant, ouvrez les guillemets, est-ce que je dois me lancer dans la permaculture, prendre la tête des manifs, marcher sur le palais d'hiver, suivre les leçons de Saint-François, devenir hacker, organiser des fêtes de voisins, réinventer des rituels de sorcières, investir dans la photosynthèse artificielle, à moins que vous ne vouliez que j'apprenne à pister les loups. Bruno Latour, bonsoir.
Bonsoir.
Avec moi à la co-interview, Loïc. Salut Loïc.
Salut Philippine.
Alors vous êtes sociologue, philosophe et professeur émérite de Sciences Po Paris. Vous vous intéressez tout particulièrement à la recherche scientifique et à la question du climat également. Mais pour rentrer dans le vif du sujet tout de suite, vous commencez votre démonstration dans votre nouvel ouvrage par le rapprochement de trois grands épisodes de l'actualité. La crise migratoire qui a atteint des sommets en 2015, le Brexit en juin 2016 et l'élection de Donald Trump en décembre 2016. Est-ce que l'envie d'écrire est venue parce que vous étiez affolé par cet enchaînement d'épisodes ?
Oui, forcément. On est un peu ému par les transformations. Le Brexit d'abord, qui est quand même le grand événement historique. Et ensuite, coup sur coup, Trump. Et évidemment, la crise migratoire, qui elle est de beaucoup plus longue durée, mais qui est en fait une façon dont, par laquelle nos contemporains comprennent la question climatique. À tort, mais c'est comme ça qu'ils la voient. Ils la voient avec des gens qui envahissent leur territoire.
Donc ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup, oui.
Et c'est ça qui vous a donné envie d'écrire alors ?
Ben, ça fait longtemps que je travaille sur la question disons, qu'on appelle écologique, mais qui est en fait une question sociale et politique. Mais là, le départ par, invoqué par Trump de l'accord de Paris, ça m'a fait sauter un peu en l'air, oui, je dois dire.
Comment on peut expliquer justement cette décision de Trump de sortir de l'accord de la COP21?
Ben, je pense que ce n'est pas lui, naturellement. Lui ne s'intéresse pas du tout au climat. Mais il a de puissants intérêts derrière lui. Mmh. Et au fond, les États-Unis avaient deux choix, quoi. Ils sont les plus responsables de la crise écologique, en un certain sens. Et ils avaient donc soit le choix de dire on fait un virage sur l'aile et on s'attaque sérieusement à la question qui va nous impacter, nous, les Américains, et tout le monde. Et l'autre solution, qui finalement, elle n'est pas rationnelle, mais on la comprend, qui est de dire ben non, cette question ne nous atteindra pas. Et donc, une fuite, en quelque sorte.
Comment expliquer que les Trumpistes écoutent ce discours-là, ce discours climato-sceptique, alors qu'un certain nombre d'institutions, et vous le répétez, ont prouvé scientifiquement l'effet que le réchauffement climatique existe bel et bien?
Parce que les preuves scientifiques, elles ont un sens, et on s'attache à leur sens, et on croit en leur vérité s'il y a beaucoup d'autres choses en place. C'est comme si vous me demandiez si vous fumez et que vous entendez parler vos parents vous disent que ça va créer un cancer, vous le savez, naturellement, l'information, vous le savez. Mais vous avez décidé de continuer à fumer, donc vous en fichez. Donc ce n'est pas du tout un problème de connaissance, c'est un problème de décision concernant le futur, en quelque sorte. Je continuerai à fumer, je continuerai à polluer, peu importe ce qui se passe.
Mais alors, pour vous, ça a l'air aussi d'être un problème quand vous évoquez les élites obscurcissantes, comme pour mettre en avant la responsabilité d'un petit nombre de puissants. Ces puissants qui, là je vous cite, ont décidé de ne plus partager le monde commun avec le reste des 9 milliards de braves gens. Moi, je me demandais, est-ce que ces braves gens sont seulement les victimes? Comment ils peuvent faire pour sortir de cet état d'impuissance dans lequel les élites obscurcissantes les ont mis?
Ça, c'est la question à un million. Quand j'ai publié le livre, on n'avait pas encore les Paradise Papers. Hein. Et c'est quand même très intéressant de voir que maintenant, on commence à avoir une petite description des gens qui sont offshore, qui sont hors sol en quelque sorte. Je les signalais dans le livre, mais on ne savait pas qu'on savait autant de choses sur combien ils sont, combien ils gagnent, etc. Et ils sont effectivement complètement en dehors du reste de la communauté internationale. Simplement, l'originalité de la décision de Trump, c'est que c'est la première fois qu'un État est le plus important et aussi le plus capable de résoudre la question, se met lui-même hors sol, en quelque sorte, et décide, bon ben, vous avez peut-être un problème écologique, mais nous pas. Et c'est ça qui change la position de ces élites obscurcissantes. En plus, on a effectivement un certain nombre de preuves que c'est pas simplement une ignorance scientifique, c'est pas simplement qu'ils ne savent pas. C'est qu'ils savent très bien, mais ils ont décidé de dénier la situation climatique.
Mais alors, c'est qui ces
élites? Dénier, c'est quand même grave, c'est autre chose.
C'est qui ces élites obscurcissantes qui dénient, renient?
Il y a d'abord des tas de braves gens qui, simplement, comme vous le disiez fort bien dans votre question, sont démunis et disent ça ne peut pas être vrai. On peut pas, c'est pas possible d'imaginer que les humains sont capables de modifier le système Terre. Donc il y a déjà un premier groupe de gens qui sont parfaitement innocents, ce n'est pas des criminels. Et puis il y a toute la gamme, disons. Il y a aussi des gens qui sont payés par l'industrie du charbon, du pétrole, etc., pour décider de produire de l'ignorance sur cette question, comme on a eu il y a une trentaine d'années sur la question de la cigarette, comme on a encore maintenant sur la question des produits chimiques de Monsanto. Donc il y a aussi une organisation de l'ignorance, c'est une chose nouvelle. Avant on avait des controverses, maintenant on a une organisation financée à l'échelle de milliards de l'ignorance. Et on comprend que ce soit quand même assez sympa, si je reprends mon exemple du cancer du poumon, si on vous dit oui mais il y a quand même des doutes, il y a une ou deux études qui montrent que vous ne l'avez pas, vous allez vous jeter sur cette histoire et vous allez dire bon ben finalement je peux encore en fumer encore une.
Mais dire que les élites sont au courant et qu'elles organisent justement le fait qu'on puisse orienter des populations pour ne pas croire à ce réchauffement climatique, est-ce que c'est pas une théorie un petit peu complotiste?
Si, le problème de ce qui est compliqué dans les affaires de complotistes, c'est qu'il y en a des vrais, des complots. Et quand vous voyez que le ministre de l'Environnement de Trump est un climato-sceptique, qui met des climato-sceptiques dans tous les postes, et qui a fait il y a 15 jours cette chose extraordinaire, c'est de dire aux tous les scientifiques qui sont financés par l'État, je ne vais plus les utiliser parce qu'ils sont jugés partis. Et je vais prendre des scientifiques indépendants, c'est-à-dire des gens de l'industrie qui ne reçoivent pas d'argent de l'État. Comment vous appelez ça? C'est une décision quand même. C'est un complot organisé. Et en plus, il y a maintenant beaucoup de livres sur la distribution des crédits des climato-sceptiques. On les appelle sceptiques par amitié, mais en fait, c'est plutôt des négationnistes. Donc, non, il y a effectivement mon hypothèse a pour but de faire réfléchir. J'exagère, mais j'exagère précisément parce que c'est un texte politique. C'est pour dire il doit y avoir un rapport quand même entre la question des inégalités, la question de la déréglementation, qu'on n'a jamais connu ce niveau d'inégalité, et la question de la dénégation du climat. C'est la seule chose que je rajoute. Autrement, ce sont des choses que tout le monde sait. Mon livre est une série de choses assez simples.
Et moi, il y a quelque chose qui m'a frappé dans votre livre, c'est que vous redéfinissez les termes, en fait. C'est quasiment c'est de la philosophie par endroits où vous définissez bien les termes, notamment réactionnaire, modernisateur ou encore progressiste. Vous soulignez les nuances dans chacun de ces mots quand vous les utilisez. Et alors moi, je vais vous donner 3 noms de personnalités politiques. Alors ce sera à vous de me dire quels adjectifs vous mettriez derrière. Alors, comme ça, au pif. Emmanuel Macron, Donald Trump, Theresa May, réactionnaire, modernisateur, progressiste.
Alors, Macron, je crois que c'est assez simple, c'est un modernisateur typique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a quand même nommé Hulot comme ministre d'État. Donc il y a une minuscule possibilité, je reconnais que c'est une minuscule possibilité, que Hulot le tire, dans mon petit schéma, du côté de ce que j'appelle le terrestre, qui est au fond la nouvelle version des progressistes, si vous voulez. Avant progressiste, ça voulait dire on va vers disons, l'horizon enchanté de la globalisation.
Et Nicolas Hulot, on va y revenir, j'ai une petite
Et donc,
question
je pense qu'il y a quand même une... Bon, Trump, c'est clair, il est clair, typiquement hors sol. Et il a
du coup,
une...
réactionnaire
C'est compliqué, parce qu'il invente une position qui n'existait pas. De même que les fascistes ont inventé une nouvelle solution dans les années 30, lui, il invente une nouvelle solution, qui n'est pas la même que celle des fascistes, qui est de dire, je vais développer simultanément le capitalisme le plus extrême, et vous ramenez, braves gens, à l'Amérique des années 60. Ça, c'est dur à faire, quand même, comme combinaison. National-socialiste, c'est une combinaison compliquée. Mais là, cette combinaison, là aussi, elle est compliquée. Donc, on ne peut pas dire qu'il est réactionnaire. Il invente une nouvelle position politique qui est extrêmement dangereuse et qui, pour le moment, est efficace. Parce que l'avantage d'inventer une nouvelle position politique, c'est que ça désoriente tout le monde. Et les gens ne savent pas comment répondre. Mes amis universitaires, j'étais en Amérique récemment, ils sont complètement perdus devant le... Pourquoi est-ce que les gens continuent à voter pour Trump? C'est un mystère complet, ils grattent la tête. Donc ça veut dire que l'opération fonctionne. Pendant un temps, ensuite, tout le monde va s'apercevoir que c'est évidemment impossible. On ne peut pas simultanément développer le capitalisme le plus sauvage et ramener le travail dans les Appalaches. C'est impossible.
Et justement, pour revenir à Nicolas Hulot, le 7 novembre dernier, notre ministre de l'écologie a donc mis en échec la promesse de campagne du président Macron qui consistait à ramener sous le seuil des 50% la part du nucléaire en France d'ici 2025. Quel regard vous avez porté sur cette décision de Nicolas Hulot? Est-ce que c'est un peu ça l'image du sol qui s'écroule sous nos pieds dont vous filez la métaphore dans tout votre livre?
Non, au contraire. J'ai trouvé que c'était assez positif de la part de Hulot. Ça veut dire qu'il fait de la politique. Donc des compromis astucieux pour essayer de sauver tout un autre ensemble de choses. Donc j'avais peur au contraire que sur cette question, il moralise la situation, il dit « je me taille et je démissionne » puisqu'on lui propose toujours de démissionner. Donc ça veut dire qu'il commence à apprendre le métier de politique et ça je trouve c'est plutôt favorable.
Thank you.
Toujours sur Radio Campus Paris et on vient d'écouter San Lazaro de Celina y Rutilio.
La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
Nous sommes toujours avec notre invité Bruno Latour, auteur du livre « Où atterrir ?». Loïc, tu avais une question.
Oui, je vais rebondir sur ce qu'on disait avant la pause. Emmanuel Macron donc, a du mal, enfin, n'applique pas de politique réellement écologiste, je pense, en France aujourd'hui. Et pourtant, sur le plan international, on se souvient qu'il a été l'un des premiers à réagir à la sortie de Donald Trump de l'accord de la COP21 ouais. En disant « Make our planet great again », rappelant évidemment la phrase de campagne de Trump. Comment expliquer ce décalage de discours et des actes du président de la République française ?
Mais je ne peux pas parler pour le président de la République, mais il faut bien se rendre compte que quand même la tendance générale, moi ça fait 30 ans que je suis ces questions, elle est quand même une politisation de plus en plus explicite de ces questions. Et Trump nous a donné un petit coup de pouce utile, qui a réagi d'ailleurs immédiatement sur Macron, qui est de dire la question géopolitique la plus importante, c'est cette question non pas seulement du climat au sens de température, mais aussi, disons, l'ensemble de nos conditions matérielles d'existence. Donc je crois que maintenant, en un certain sens, Trump prouve à contrario que c'est l'évidence, que tout le monde est d'accord là-dessus. Alors ensuite, l'énormité de la transformation qu'il faut faire subir à un système industriel, le transport, toutes les conditions, disons, quotidiennes, est énorme. Mais quand même, la tendance est assez clairement que c'est avec ça qu'on fait de la politique. Ça ne veut pas dire qu'on enseigne ces choses-là dans les écoles de sciences politiques, mais ça veut dire que c'est pour les élèves, les étudiants, les gens de votre génération, c'est évident que c'est ça la grande question. Donc, il s'agit d'atterrir. Vous n'allez pas vous transporter dans cet horizon indéfini de la modernité, comme on le croyait, comme nous encore on le croyait, à ma génération. Donc, en un certain sens, que ça soit lent, m'étonne pas. D'ailleurs, en fait, moi, je suis plutôt surpris de la rapidité avec laquelle ces questions de climat sont devenues des questions politiques. C'est quand même extraordinaire. Il y a 20 ans, personne n'aurait imaginé que c'était la grande question du géopolitique.
Du coup, vous êtes optimiste quand même sur...
Non, je n'irai pas jusqu'à... Je n'irai pas jusque-là parce qu'on est en guerre. Trump nous a déclaré la guerre, en un certain sens. Il a dit « je vous envahis avec du CO2 » et nous, on envahit les îles du Pacifique et on leur dit « vous allez disparaître sous l'eau et on s'en contrefiche ». Donc on est bien dans une situation de guerre. Et les situations de guerre, par définition, ça va dans un sens ou ça va dans l'autre sans qu'on puisse prévoir qui va gagner. Donc je ne suis pas optimiste en ce sens-là. Je suis optimiste en ce sens que la question géopolitique clé est devenue une question clairement la question climatique.
Une autre question d'actualité sur la COP23 qui s'est terminée la semaine dernière à Bonn en Allemagne. Elle a suscité assez peu d'enthousiasme, vous me dites si je me trompe, et elle a été marquée par assez peu de grandes annonces. Est-ce que cette grande conférence annuelle a encore un sens, ou va encore avoir un sens dans les années à venir ?
Bah, je n'ai pas suivi celle-là particulièrement parce que je m'étais surtout investi dans celle de Paris. Mais mes amis qui travaillent sur la question des COP pensent que c'est un peu un modèle... usé, disons. Parce que d'abord, c'est que les nations, donc les nations, c'est un modèle intéressant et important, mais c'est pas que ça. La question climatique, c'est pas que les nations, c'est aussi les peuples. Et donc toute cette question que j'essaie d'adresser dans ce livre, la question massive, c'est que dans tous les pays simultanément, tout le monde est en train d'abandonner l'horizon, disons, de la globalisation et essaie de revenir à l'état national. Donc, là, de ce point de vue-là, les COP sont très mal équipées. En même temps, elles font un énorme boulot technique, administratif, scientifique, d'évaluation, etc. Ce qui est le cas de celle de Bonn. Mais le modèle est peut-être un peu usé, disons.
Mais alors, vous parliez de globalisation. Moi, j'ai remarqué que vous faisiez une nuance et qu'elle avait l'air fondamentale entre globalisation et mondialisation. Pourquoi ? C'est pas la même chose ? Et puis surtout, pourquoi cette distinction entre les termes ? Ça semble être un point aussi central de votre développement.
Non, je fais la distinction entre globalisation et mondialisation. Je pense que c'est synonyme, c'est dur de... Mais par contre, entre mondialisation plus et mondialisation moins.
Ah oui, alors ?
Parce que mondialisation plus, ça veut dire que c'est ce que nous avons tous espéré à votre génération comme à notre génération, la mondialisation. C'est-à-dire qu'on allait multiplier les possibilités de voyager, de parler des langues différentes, d'ouvrir à des cultures différentes, etc. etc. Et puis il y a la mondialisation moins, qui est celle contre laquelle on réagit aussi, qui est de dire, au fond, un tout petit nombre de formats, en particulier économiques, sur ce que c'est que de réussir, sur ce que c'est que de gagner de l'argent, sur ce que c'est que d'être un sujet de droit, etc., s'impose à tout le monde. Donc c'est exactement le contraire. Donc on peut simultanément vouloir la mondialisation plus, ce qui est mon cas, la multiplicité des modes et de cultures, disons, et de relations au monde. Et puis, c'est vrai que ce qui est vécu et qui explique beaucoup le retour actuel de ce qu'on appelle populiste, qui est un mauvais terme, mais qui décrit la situation actuelle, c'est de s'apercevoir que c'est une mobilisation moins. C'est-à-dire qu'on vous définit de façon encore plus précise. Vous êtes étudiant, donc vous savez que les critères d'évaluation sont devenus d'un simplisme extraordinaire. Les universitaires, vos professeurs, sont maintenant évalués sur un petit nombre de standards inventés par un monsieur, à qui j'ai serré la main d'ailleurs une fois à Shanghai. Je lui ai dit, mais monsieur, vous êtes un criminel, vous nous avez imposé dans toute l'université française des décisions absurdes, tout ça parce que vous vouliez faire un petit schéma pour classer les universités, sur le classement de Shanghai, qui continue à transformer les universités françaises de façon absurde.
Et qui est ce monsieur responsable de ce classement-là?
C'est un monsieur, un sociologue, d'ailleurs un statisticien tout à fait sympathique, d'ailleurs, qui était, lui, il essayait de faire un classement pour que les étudiants chinois sachent où aller. Mais ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que, voilà, c'est typiquement la mondialisation moins, ça. Un petit principe de façon d'évaluer les universités s'est répandu partout. Donc, c'est absolument le contraire de ce qu'on pourrait appeler mondialisation plus. Vous pourriez imaginer qu'une université chinoise, française, du sud de la France, d'Amérique, etc., s'évalue différemment, a une autre façon d'enseigner, etc. etc. Donc, on a provincialisé la mondialisation.
C'est d'autant plus conflictuel que vous considérez à un moment dans votre livre que le débat de l'anthropocentrisme, c'est ce qu'on est pour, le fait de voir en tant qu'homme ou d'être en tant qu'homme, reprenez-moi si je dis des bêtises, vous allez même jusqu'à soulever l'hypothèse qu'entre l'homme et la nature, il va bientôt falloir choisir, ou alors à un moment, on pourrait être amené à choisir. Alors moi, je me demandais, avec la robotisation du travail, les recherches sur l'intelligence artificielle, à votre avis, qu'est-ce que la mondialisation, elle va choisir?
Ça, c'est compliqué. Moi, je ne suis pas Madame Soleil. La mondialisation...
vous devez bien avoir une petite idée.
La mondialisation, telle que vous parlez, c'est-à-dire vous faites allusion à cette espèce de futurisme.
Oui, le cours des choses qui embarque tous les pays dans le même bateau.
Oui, mais c'est toujours la même direction, c'est celle de la modernisation assez classique. Simplement, elle est devenue extrême. Et elle a un énorme inconvénient, reconnu d'ailleurs par tous les gens qui se font les chantres de cette évolution futuriste, c'est que le nombre de gens laissés derrière, qui ne sont pas considérés comme... qui sont disposables, comme on dirait en anglais, c'est-à-dire des gens surnuméraires, on dirait en français, s'accroisse. Donc c'est pas extrêmement sympathique comme façon de concevoir le futur. Donc c'est un futur pour pas beaucoup de gens. C'est un futur pour beaucoup de robots peut-être, et beaucoup d'ingénieurs statisticiens, etc. Mais c'est pas pour beaucoup de gens. La question écologique est complètement différente. La question écologique, c'est qu'on est 9 milliards et qu'il faut nous trouver une place et un territoire. Et donc c'est pas ces solutions-là, des solutions techniques, disons, même si j'aime beaucoup les solutions techniques par ailleurs, c'est un autre horizon, ça. D'ailleurs, pour moi, une espèce de reprise et de continuation de cette modernisation. Elle frappe beaucoup les esprits en ce moment, parce qu'on se dit, finalement, on va peut-être s'en tirer avec tous ces trucs-là. Cette modernisation extrême, disons. Mais en même temps, la question climatique, c'est tout à fait autre chose. C'est 9 milliards de gens, un monde à 2, 3, 4, 5 ou 6 degrés, et des conséquences sur... l'habitat, et surtout maintenant, le problème urgent, c'est la politique. Les gens sont tous en train d'essayer de revenir à l'État-nation, et dans sa forme la plus ethnique et la plus réactionnaire. Donc là, ça pose quand même un énorme problème. C'est là où la question écologique et la question politique, la question sociale et la question politique se rejoignent. Et c'est là où j'essaie d'intervenir avec mon petit... pamphlet, je ne sais pas comment il faut l'appeler.
Justement, selon vous, l'opposition gauche-droite avait un sens avant, mais elle n'en a plus maintenant, car les deux pôles allaient à l'époque vers le même horizon, qui était l'horizon du globe. Qu'est-ce qui a changé réellement depuis? C'est quoi la...
Elle a toujours un sens. Si on interroge les gens, les Français, si vous interrogez les Français, mes collègues de Sciences Po font ça, ils vous diront qu'ils sont tous très attachés à la différence gauche-droite. Vous l'êtes aussi, moi aussi. Mais si vous demandez aussi aux gens... quels sont les enjeux? Non, vous n'êtes pas? Non, mais est-ce que c'est intéressant?
Je ne suis pas sûr que ce soit la question, mais je vous en prie, continuez.
Non, mais ce qui est amusant, c'est que si vous demandez ensuite aux gens quels sont les enjeux, qu'est-ce que vous mettez rien dans la liste gauche-droite, là, ils sont complètement confus. Donc ils sont attachés à l'étiquette gauche-droite, mais pas forcément au contenu. Et donc c'est ça que j'essaie de capter dans cette affaire. C'est devenu évident maintenant, parce que si vous, je sais pas, si vous parlez des questions d'alimentation, ça va être quoi être de gauche et de droite? Si vous parlez des questions de reproduction, ça va être quoi de gauche et de droite? La confusion est totale. Ceci dit, il s'agit bien de retrouver une différence gauche-droite progressiste-régressif, mais tournée autrement. Et l'objet de mon petit schéma, c'est de dire, bah oui, mais c'est les terrestres, les gens qui s'intéressent à la question, l'ancienne question écologique devenue une question essentielle de territoire, c'est maintenant ceux-là les progressistes. Et il faut maintenant pouvoir trier entre progressistes et réactionnaires. Donc ça, c'est un texte politique pour un retour du politique, hein. C'est assez classique comme façon de faire.
Une dernière question, du coup, au moment de l'élection présidentielle, 75% des électeurs sont allés voter, donc 25% n'y sont pas allés. Est-ce que vous pensez que la France, et peut-être ailleurs dans le monde, est-ce que les citoyens sont dépolitisés aujourd'hui ?
Je crois que le monde est dépolitisé parce qu'on a oublié un peu ce que c'était que la politique. Et le but de mon livre, c'est de dire, mais attendez, la politique, c'est d'habiter un lieu, et de défendre, et de s'intéresser à ce qui s'y passe, et de partager un habitat. C'est pas d'avoir des opinions. C'est pas même de défendre des valeurs. Et c'est pas d'avoir de mettre en écharpe des catastrophes qui vous sont arrivées. Or, c'est un peu les trois modèles là, par lesquels on parle maintenant de politique. Donc la politique, c'est effectivement vider. Et ce qui m'intéresse dans la question écologique au sens large des gens, c'est que ça permet de retrouver de la politique et de la recharger, surtout. Évidemment, ça ressemble pas tout à fait à ce qu'on appelait les affects politiques avant, mais je pense que c'est ça qui est important et intéressant.
Merci Bruno Latour d'avoir été notre invité. On rappelle que votre livre « Où atterrir, comment s'orienter en politique » s'adresse donc à tous ceux qui sont curieux de savoir où vont la société, la politique, mais surtout où vont aller les hommes, les terrestres, en ces temps que vous décrivez comme troublés. Et c'est aux éditions La Découverte. Vous qui nous écoutez, restez avec nous sur Radio Campus Paris, on se retrouve dans un instant.
La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
vient tout juste d'écouter Muy Tranquilo de Grammatique. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoindraient sur le 93.9 FM. Philippe, c'est l'heure de ta chronique et tu vas nous parler de musique.
De musique de piano, plus précisément. Quand je te dis piano, tu penses à qui ?
Oh, je sais pas, Chopin ?
Évidemment, qui d'autre ?
Oh, allez, Debussy ?
Aussi, mais plus récemment.
Jan Tiersen ?
On s'approche. Alors, Jan Tiersen est surtout connu pour la bande-son du film Amélie, mais même si la musique dont je vais vous parler a quelque chose de très cinématographique, les seules images qui l'accompagnent sont celles qu'elle fait émerger dans nos têtes. Je vous parle du pianiste allemand Martin Kohlstedt qui a sorti vendredi dernier son troisième album, Strom. Cet album se démarque pas mal de ses prédécesseurs, Tag, sorti en 2012, et Nacht de 2014. Ces deux premiers albums, dont les noms signifient jour et nuit, étaient des collections de morceaux dans lesquels on n'entend que le piano. L'ambiance s'y étendait du très sombre au très léger en passant par le mélancolique et le pensif. Strom, c'est une toute autre affaire. Écoutons un extrait. Kohlstedt intègre sur cet album toutes sortes d'éléments électroniques dans ses compositions. Le noyau reste quand même sa manière d'expressif de jouer le piano, mais on entend aussi des synthétiseurs et plein de sons que je ne peux pas identifier. Ça me fait donc penser au terme acousmatique, qui désigne un son dont on ne connaît pas la source, et c'est probablement une des raisons pour laquelle j'ai recours au terme cinématographique pour décrire cette musique.
Il y en a d'autres ?
Oh oui ! La façon dont Kohlstedt joue de son instrument, non, joue avec son instrument, est très organique, comme si la musique qui en sort avait sa propre vie, et que tout ce que le pianiste faisait serait de tracer ses mouvements comme un peintre sonore. Si l'on voulait le comparer à ses semblables, je pense notamment à Gonzalez et à Niels Frahm, un autre pianiste allemand qui mêle piano et électro, la métaphore du peintre illustrerait bien les différences dans le style. Là où Frahm travaille avec des grosses taches de peinture, Kohlstedt fait des traits d'une finesse incroyable à tel point qu'ils ne sont parfois guère reconnaissables. Mais il sait aussi utiliser les gros pinceaux comme dans les morceaux d'Homme ou Tar. Il y a aussi une ambiguïté émotionnelle qui vient du conflit entre le piano et les bruits parfois assez stridents, comme on l'a entendu dans les deux extraits. On retrouve cette ambiguïté dans le titre parce que le mot Strom veut dire courant. Courant électrique d'un côté, une référence évidente à l'inclusion d'instruments électroniques, mais aussi le courant d'eau, image qui reflète l'évolution fluide et l'effet engloutissant des morceaux. J'ai parfois l'impression de me trouver sous l'eau et d'entendre les vagues se précipiter au-dessus de ma tête. En même temps que l'album, Martin Kohlstedt a aussi publié le premier chapitre d'un documentaire sur sa musique. Il y parle souvent d'énergie et de communication avec les auditeurs, et on le voit voyager entre autres en Iran et en Russie. Je vous conseille d'aller voir le documentaire, même si vous ne parlez pas allemand, parce qu'il est très touchant. On voit par exemple le petit Martin à l'âge de 6 ans, au moment où il perd ses premières dents, ce qui est marrant parce qu'on ne voit pas souvent les musiciens comme ça. Et rien que pour voir comment il se déchaîne et s'amuse sur scène, ça vaut le détour.
Oh mais c'est dommage qu'on ne puisse pas aller le voir sur scène alors pour de vrai.
Eh ben si vous avez déjà acheté votre agenda pour 2018, chers auditeurs, marquez le 6 février en rouge. C'est ce soir-là que Martin Kohlstedt sera au Centre d'art et de danse Éléphant Paname à Opéra. Et dans tous les cas, laissez-vous engloutir par les forces de la nature que vous trouvez sur Strom.
Merci Philippe pour cette chronique et cet artiste que je découvre.
Catalpa, catalogue, Paris. Voilà, c'est tout bête. Mais bon, voilà. C'était un brainstorming tout seul. Voilà. Donc, vous avez échappé à 4 Expo, Expo 4, je ne sais pas quoi. Et puis, catalogue, Paris, Catalpa, voilà. Ce qui a permis de faire, effectivement, le prix qui est une feuille de l'arbre Catalpa. Un arbuste qui peut pousser dans nos régions, oui. Le président en a un sur son balcon.
Voilà pour la petite histoire que vient de nous raconter Antoine Bonneval, membre du jury et également inventeur donc de l'appellation Catalpa, le seul prix qui récompense le meilleur catalogue d'exposition à Paris. Pour nous en parler, à mes côtés, Saint-Véron Pompé, bonsoir.
Bonsoir.
C'est vous qui avez reçu le prix Catalpa 2017 jeudi dernier au nom de toute l'équipe qui a travaillé autour du catalogue lauréat Balenciaga l'œuvre noire dont vous êtes le chargé de fabrication. Catalogue récompensé pour de multiples raisons sur lesquelles on va revenir avec notre invitée Christine Auclair, membre du jury prix Catalpa. Bonsoir.
Bonsoir.
Avec nous également André Balbeau, président du prix Catalpa. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors à mes côtés, pour cette interview, Mathilde de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Mathilde.
Salut.
Alors peut-être pour commencer, je vais davantage m'adresser aux membres du jury. Comment est né le prix Catalpa ? André,
Monsieur le Président.
Christine, André.
Et le prix Catalpa est né d'une idée toute simple, c'est que les catalogues d'exposition de Paris sont des livres très importants, des sommes d'art et de travaux de gens extrêmement compétents. Et personne ne s'intéresse beaucoup à ces catalogues, peut-être parce qu'ils sont attachés à des expositions temporaires. Et donc, on s'est dit, nous, ça nous intéresse, on va s'en occuper.
Et alors, comment on choisit un catalogue lauréat ? On vote, on discute, on débat
On en reçoit d'abord beaucoup. Cette année, on en a eu 55. Et ensuite, on travaille. D'abord, c'est un travail solitaire. On est seul devant cette masse importante d'œuvres tout aussi importantes. Et puis, on fait un tri. Enfin, on a des réunions dans lesquelles on va petit à petit arriver vers une sélection, une nomination de 10 catalogues. Et puis ensuite, on détermine le premier prix et éventuellement des accessites.
Et y a-t-il un genre d'exposition privilégié, un genre précis, ou c'est vraiment ouvert à toutes sortes d'expositions, tout sujet ?
Toutes les expositions parisiennes, par définition, comme le titre l'indique.
Très bien. Et vous disiez que les catalogues d'expositions n'étaient pas accessibles du fait qu'ils portaient sur des expositions temporaires.
Non, je ne disais pas qu'ils n'étaient pas accessibles. Ils sont accessibles, mais on n'en parle pas. On parle beaucoup des événements qui sont des expositions durant 3 à 4 mois. Mais il y a beaucoup d'articles qui parlent de ces événements et en fait les critiques ne vont pas jusqu'à parler des catalogues. Or les catalogues perdurent une fois que les expositions sont terminées.
Oui, et c'est un véritable objet d'art, parfois, vous le rappelez. Mais c'est vrai que parfois, pour les non-initiés, ça peut paraître un peu indigeste à la lecture. Alors, comment on fait pour sortir un peu de cet entre-soi que ce prix... Est-ce que ce prix Catalpa revendique un rôle de démocratisation, d'un meilleur accès au public à ces objets d'art, véritablement, les catalogues d'exposition ?
Alors, il y a en fait des catalogues très différents les uns des autres. Ils ne sont pas difficiles d'accès, forcément il y en a des plus difficiles, mais il y en a de très ouverts et qui tentent de montrer au contraire des aspects très, très particuliers, dans le détail, de façon illustrée et par des gens extrêmement compétents et souvent très pédagogues.
Et est-ce que la lisibilité, ça fait partie des critères de sélection pour le lauréat ?
On a plusieurs choses. On a une accessibilité importante. Il y a la lisibilité, il y a le graphisme. Il y a aussi un côté un petit peu sensuel, c'est-à-dire qu'on s'occupe beaucoup des couvertures, des types de papier, de ce genre de choses. C'est ce qui nous a particulièrement séduit cette année dans le catalogue Balenciaga, qui était particulièrement travaillé en termes de matière et en termes de choix de couleurs et donc de sensualité globale, à la fois dans le choix des photos et dans le choix des papiers, dans la réalisation de l'objet.
Alors je me tourne vers vous, Saint-Véron Pompé. C'était quoi le plus gros défi de ce catalogue d'exposition Balenciaga, l'œuvre noire ?
Bien, pour ce catalogue, ce qui a été le plus compliqué, c'était le travail de la photogravure. Parce que quand j'ai rencontré le photographe Pierre Yvenne pour la première fois, et il a commencé à shooter pour le musée Galliera, et c'était que du noir et très dense. Et ma première question était de savoir comment restituer son travail. En plus, le graphiste, c'est Laurence Toskoff qui a travaillé dessus, et qui m'a appelé, me dit « Saint-Véron, je vais avoir des fonds noirs. avec de la typo noire. Donc il, des fonds noirs, il m'a dit que les fonds noirs allaient être de même densité. Il y a la continuité des fonds, des photos, plus de la typo noire. Donc il fallait trouver dans quelle direction j'allais me diriger dans le traitement de l'image, trouver les valeurs de fond pour harmoniser avec les photos, en même temps les valeurs de soutien et autres, pour que son texte puisse être lisible. Pour moi, c'était la partie la plus compliquée, voilà, à trouver. Mais une fois qu'on l'avait trouvé, on avait déjà un chemin qui se dessine, qu'il fallait s'y tenir.
Mais vous l'avez trouvé, vous avez séduit le jury en tout cas. Et je voudrais revenir sur vos modes de sélection, justement les critères que vous avez pour décerner ce prix. Comment est-ce qu'ils sont esthétiques, littéraires, documentaires? Parce que c'est à la fois voilà, des images, des textes. Est-ce que vous avez des critères
Alors, l'intérêt de ce jury, c'est d'être composé de personnes très intéressées par la culture, mais avec ayant chacune un angle particulier. Donc, d'une certaine manière, on se complète. On ne juge pas des catalogues seulement d'une façon, je dirais, démocratique. Ce n'est pas en termes de quantité que l'on choisira les lauréats.
En termes de quantité, vous voulez dire, il n'y a pas de vote, c'est ça? Pas de vote à la majorité?
Il peut y avoir des votes, mais ça ne suffit pas. Les décisions s'emportent à l'argumentaire.
C'est celui qui aura le dernier mot, alors?
C'est pas celui qui aura le dernier mot, c'est celui qui parviendra à convaincre. C'est de la conviction, c'est des arguments, et ça peut durer longtemps. Mais ça finit toujours bien, on s'arrête au premier sang.
Donc, celui qui aura le meilleur mot, un véritable concours de rhétorique, c'est ça. Et alors, vous parliez d'un jury éclectique, un jury qui a des angles différents. Le vôtre, Christine Auclair, c'est quoi votre angle dans ce jury?
Moi, mon angle, il est plutôt tourné vers l'objet. C'est-à-dire que j'ai besoin, moi, de quelque chose de complet, de quelque chose qu'on puisse manipuler. J'aime bien les livres d'abord par le contact. Et donc, j'ai besoin d'un objet complet à la fois, comme je le disais pour le catalogue Balenciaga, des natures de papier, des graphismes, des compositions de pages, des choses comme ça qui vont m'attirer d'abord, dans un premier temps, avant que je ne juge de l'intérêt du texte ou des contenus à proprement parler, que je vois dans un deuxième temps.
Et vous, André?
Moi, j'ai été amené à visiter un grand nombre d'expositions pour un site qui s'appelle etvous.fr. Et cela pendant plusieurs années. Et je vois à la fois les expositions, mais je m'attache à ne regarder que les catalogues en tant que tels. Et ce qui m'intéresse, c'est la surprise. De temps en temps, nous rencontrons des catalogues qui donnent davantage, qui donnent plus que l'exposition. Et là, ce sont de vrais plaisirs, des découvertes très très larges. Yes, I wrote it on the wall. And I don't feel sorry. Did you look up really close? Well, is that your throat? I'm gonna one shall not pass.
C'était Slit It de Bobs sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h.
Faire un catalogue d'exposition et l'évaluer, le juger, le récompenser. On continue d'en parler dans la matinale de 19h avec nos invités. Saint-Véron Pompé, chef de la fabrication du catalogue d'exposition récompensé. Balenciaga, l'œuvre noire. Alors vous avez tenu le poste donc de chef de fabrication. Qu'est-ce que c'est un chef de fabrication ? Dans un catalogue d'exposition.
Un poste de chef de fabrication, c'est vrai que c'est toujours, quand on entend le titre, j'ai envie de dire, on se demande ce que c'est. Mais c'est la personne qui s'occupe d'étudier, d'évaluer, de chiffrer, de rédiger le cahier des charges d'un produit imprimé, par exemple chez nous, à Paris Musée. Je m'occupe de rédiger le cahier des charges, de le faire chiffrer, d'anticiper les aléas, choisir les matières, et choisir le photograveur qui va.
Et alors les matières, je me permets juste de rebondir. Vous parliez d'un catalogue d'exposition sensuel avec une importance du visuel. Quelles étaient-elles les matières alors ?
Là, on a le papier, on a la toile, parce que c'est très simple sur ce titre. Il y a le papier, la toile, comme c'est un relié, il y a du carton qui ne se voit pas. C'est tout.
Et la toile. Matière,
voilà. Donc, il y a la toile qui vaut le revêtement de couverture. Le choix du papier. Le choix du papier, ça a été très important parce qu'on a dû choisir, j'ai dû faire des tests sur 3-4 papiers. Parce que le photographe, lui, il avait une idée de ce qu'il voulait. Il ne fallait pas que ce soit brillant. Il ne fallait pas que ce soit dur. Mais en même temps, il fallait que ce soit assez dense. Et il ne fallait pas qu'il y ait de faiblesse au niveau du noir. Donc son choix c'était un papier offset, mais il y a plusieurs types de papier offset. Il fallait trouver un papier offset qui était adapté au rendu qu'il voulait. Pour avoir ce rendu, ce petit côté un petit peu velouté, pas trop dur. C'est aussi cette dureté sur travail aussi en photogravure. Donc c'est ce choix de papier là qui a été fait. Donc c'est un choix qui se fait en fonction de ce qu'on va déposer sur le papier aussi. Des photos, des œuvres, Donc là, c'était des photos. C'est toujours un choix qui se fait en fonction de cela.
Véritable voilà. défi, alors, pour lequel vous avez été récompensé. Mathilde...
C'est un travail de... Je tiens à dire que c'est un travail d'équipe. Parce qu'il y a aussi l'éditrice, il y a le graphiste. En fait, mon travail, c'est de matérialiser ce que souhaite le graphiste. Parce que le graphiste, il a une idée. Quand on lui confie le projet, il vient me voir, il me dit l'idée du projet, il le voit d'une certaine manière. Moi, à ce moment-là, je dois le conseiller au niveau des matières et de la direction qu'on doit suivre pour pouvoir le matérialiser. Donc, quand c'est fait, et si les gens sont contents, c'est parfait, c'est merveilleux. Voilà, à ce moment-là.
Oui, moi, je voulais, Monsieur Balbeau, je voulais revenir sur la composition du jury. Combien de membres du jury figurent à cette prise de décision et comment est-ce qu'ils sont nommés? Comment est-ce que c'est vous qui les nommez? Est-ce que comment ça se
non,
ça
c'est,
se forme
c'est un groupe qui se connaît maintenant. Il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent. En général, c'est sympathique. Ça peut être vif. Les échanges peuvent être effectivement assez forts, assez intenses. Mais ce qui est important, c'est cette complémentarité à laquelle on est très attaché. Il y a toute une série de personnes, tous orientés vers la culture, mais qui peuvent être photographes, peintres, selon les années. Dans le cas de Christine a beaucoup voyagé en Asie auprès de personnes importantes, à vendre des...
Je te remercie.
Des trésors français, de la joaillerie, des... Enfin...
En tout cas, une grande diversité de jurys. Merci d'avoir été nos invités, André Balbeau, président du Prix Catalpa. Merci à vous également, Christine Auclair, jurée. Et vous, Saint-Véran Pompé, chargé donc de fabrication du catalogue Lauréat 2017, d'avoir été nos invités. Pour ceux qui nous écoutent, restez branchés sur le 93.9, car c'est l'heure de la chronique étudiante de Jacques. Et on accueille Jacques pour sa chronique habituelle. Actu étudiante et bon plan, alors de quoi tu nous parles aujourd'hui, Jacques?
Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par parler cinéma avec la semaine du cinéma, organisée par le Bureau des Arts de Sciences Po du 5 au 9 février. Bon, vous commencez à me connaître, si je vous en parle autant en avance, c'est parce qu'il y a quelque chose susceptible d'intéresser nos amis étudiants, et ce, dès maintenant. Et en effet, cet événement propose aux étudiants et aux jeunes réalisateurs de soumettre leurs créations et de participer au festival. La semaine du cinéma du Bureau des Arts de Sciences Po organise un concours de courts-métrages ouvert à tous les réalisateurs et à toutes les réalisatrices européennes de moins de 27 ans au moment de la réalisation du cours. L'œuvre sera ensuite soumise à l'appréciation de 7 personnalités influentes du monde du cinéma. Dans les éditions précédentes, il y avait par exemple Agnès Varda, qui porteront un regard de professionnel sur le travail, et l'auteur du court-métrage sélectionné par le jury se verra remettre publiquement un prix lors de la cérémonie de clôture. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour envoyer vos créations, soit par lien Vimeo, soit en streaming, ou encore en gravé sur CD et CDR, et le cours ne doit pas dépasser 15 minutes. Alors, à vos caméras. Et alors maintenant, si vous le voulez bien, on va partir de l'autre côté des Alpes.
Mais alors, en Italie ou en Suisse?
Alors, en Italie. Enfin, en vrai, on va juste prendre la ligne 7 et s'arrêter à Sancier d'Obanton, par exemple. Excusez-moi, c'est pas facile à dire. Et se diriger vers le centre Sancier de l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, où, depuis 2015-2016, il existe un Master Pro Industrie Culturelle France-Italie. Bon, alors je vous rassure tout de suite, je ne suis pas là pour vous parler conseil d'orientation et ce que vous devriez faire de vos études. Ce qui m'intéresse, c'est que les étudiants de ce master organisent pour la deuxième année le festival Échange, Festival Italie Nouvelle, qui a pour but de mettre à l'honneur la culture, mais surtout la jeune création italienne. Alors il y aura du théâtre, du cinéma, des arts visuels, de la musique électronique, du street art, de la littérature, bref, il y en aura pour tous. Ça se déroulera du 29 novembre au 1er décembre et le festival se clôturera le samedi soir, donc le 1er décembre, par une soirée où DJ italiens et français se relaieront pour illustrer la valeur d'échange de cet événement et pour porter un toast à l'initiative. Passons maintenant donc au dernier événement et continuons dans la musique, et plus particulièrement le jazz, avec le 15e Dauphine Jazz Festival. Organisé par l'association L'Oreille de Dauphine, qui est donc à l'Université Dauphine, le 29 novembre, le festival proposera 5 heures de live intense, 5 heures de gros vents extrêmes, 5 heures de sueurs et d'amour, 5 heures de tapage du pied, 5 heures de swing, de jazz et de beat en rentre fou notre système moteur. Ça fait envie, toujours sur une base de jazz, mais voguant entre les univers musicaux des artistes, du hip-hop oriental à la réappropriation d'instruments oubliés. Ça aura donc lieu à l'Université Paris-Dauphine. Les prix vont de 7 à 10 euros, mais c'est pour la bonne cause, hein, car tous les bénéfices seront reversés à l'association internationale Mission Enfance, qui porte secours aux enfants en détresse dans le monde. Et si vraiment la fin novembre, c'est la dèche, et que vous redoutez décembre et les cadeaux à faire, Radio Campus Paris vous offre vos places, et on attend vos messages sur concours@radiocampusparis.org.
Parfait, il te reste rien pour nos auditeurs ?
Alors, comme je me suis rendu compte que depuis le début de l'année, je n'avais pas souvent partagé les bons plans et que je les gardais jalousement pour nos bénévoles, je me suis dit que ça allait changer. Et donc voici la liste des événements à venir pour lesquels Radio Campus Paris fait gagner des places. Alors on a deux soirées dans le cadre du festival Niobocop au hasard ludique. La première, c'est samedi 25, donc là, dans quelques jours, où le média Pan African Music invite le groupe Jupiter et Oquest. Le deuxième, c'est le 1er décembre, donc c'est toujours une soirée Niobocop, où on pourra retrouver Chaton, qui est un habitué de Radio Campus Paris grâce à la souterraine. Et le troisième événement pour lequel on fait gagner des places, qui est mon chouchou, c'est le PIF, le Paris International Fantastic Film Festival. Et on fait gagner des places pour 5 des films, notamment Leatherface, Revenge et 3 autres.
Merci Jacques. Chers auditeurs, chères auditrices, la matinale de 19h s'est terminée. Et oui, il est déjà 20h moins 1 sur le 93.9. Merci à vos invités d'avoir été parmi nous. Merci à Loïc et à Mathilde pour leurs questions à la co-interview. N'oublions pas non plus nos chroniqueurs chevronnés Philippe et Jacques. Merci à Elsa à la rédaction, Tiffany à la réalisation et Nina à la coordination qu'on embrasse bien fort mais de très très loin. Elle qui nous écoute bien malade du fond de son lit. Couvrez-vous car c'est la période des virus en ce moment. Bonne soirée à tous sur le 93.9.